chargé pour cérémonie. C'est bien frérot la pandémie.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 15 novembre 2023. Avec vous, Eric Mandakiza, voici le sommaire. Reprise de Kidal par l'armée malienne, renforçant la souveraineté de l'État dans une ville longtemps disputée. Cette reconquête de Kidal réjouit tout le Mali. Nous aurons un reportage témoignage depuis Kaï. La grève des enseignants au Tchad crée des divisions internes malgré sa suspension par les responsables du syndicat.
Nous sommes découragés par le comportement de nos leaders. Vu leur défaillance, nous allons continuer à rester à la maison.
Crise politique à Madagascar, appel de l'opposition à boycotter les élections présidentielles à deux jours du premier tour. Les candidats à la présidence en RDC refusent de signer le code de bonne conduite de la CENI, exigeant une transparence accrue à une semaine du début de la campagne électorale. Les rescapés du génocide au Rwanda espèrent une accélération des procès malgré la comparution en France de Sosthène Munyema.
C'est un grand soulagement. Si tous les suspects pouvaient être jugés ici, même devant nous, ça nous aiderait beaucoup.
Joe Biden et Xi Jinping sont arrivés hier à San Francisco, en Californie, à la veille d'une rencontre extrêmement cruciale au sommet de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'armée malienne a repris le contrôle de Kidal aux rebelles Touareg après des années d'absence de cette ville, marquant ainsi un moment crucial pour la souveraineté de l'État malien. Michel Joseph.
Nos forces armées se sont emparées de Kidal, a annoncé hier le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, dans un message à la télévision nationale. Il a parlé de lourdes pertes infligées à l'ennemi, disant que la mission n'est pas terminée, car elle consiste, selon lui, à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire. La rébellion a reconnu la perte de Kidal, le cadre stratégique permanent, une alliance de groupes rebelles armés, a admis dans un communiqué s'être retiré de la ville pour des raisons stratégiques. L'armée malienne n'avait pas remis pied à Kidal depuis mai 2014, après une cuisante défaite pendant une visite de Moussa Mara, premier ministre de l'époque. En quittant Kidal à la fin octobre, la MINUSMA a créé un appel d'air. Une colonne militaire stationnée depuis début octobre à Anéfis, à environ 110 km au sud, s'est mise en branle, appuyée par des frappes de drones de ses instructeurs russes. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a parlé sur les réseaux sociaux d'avances considérables qui démontrent la pertinence des choix stratégiques opérés par le Mali. La prise de Kidal est un succès significatif pour la junte. Elle a été saluée par beaucoup de partis d'associations et une liesse populaire dans plusieurs villes maliennes.
La plupart des villes du Mali ont célébré la reconquête de Kidal par l'armée. L'euphorie s'est même ressentie jusqu'à Kaï, dans l'ouest du pays. Issa Batili, notre correspondant sur place, nous donne un aperçu de la situation.
Ils étaient nombreux à prendre d'assaut la tribune de Kaï dès l'annonce de la prise de Kidal par les forces armées maliennes. Hommes, femmes, jeunes et vieux n'ont pas manqué de manifester leur joie pour dire au président de la transition et au gouvernement du Mali grand merci pour la rentrée de l'armée malienne dans la ville de Kidal. Certains portaient les drapeaux en main, d'autres dansaient au rythme des chants de gloire à l'armée malienne. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Nous saluons l'armée malienne pour cette victoire, nous dit cette dame habillée en couleur vert, or, rouge. Cet autre manifestant dira que tous les problèmes du Mali ont commencé par Kidal. Merci à l'armée malienne, dira-t-il. Nous avons cherché cela depuis des années et aujourd'hui nous l'avons reçu. Gloire à Allah, nous dit cette autre manifestante. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a remercié les forces de défense et de sécurité pour la reconquête de cette ville. Issa Bakari Batili, Kaï, pour la VOA.
Deux journalistes togolais ont été placés en garde à vue lundi soir à Lomé après avoir affirmé sur les réseaux sociaux qu'un ministre s'était fait voler l'équivalent de 600 000 euros à son domicile. Loïc Lawson, directeur de publication du journal Flambeau des démocrates, et Anani Sossou, journaliste indépendant, ont parlé du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Ils étaient ensuite revenus sur leurs affirmations en expliquant lundi sur Facebook que des investigations poussées des sources proches du dossier attestent que le montant communiqué était surestimé et n'atteindrait pas la somme de 400 millions de francs CFA. Les magistrats de la Cour suprême britannique rendent ce mercredi leur décision sur l'expulsion vers le Rwanda de migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, projet phare et hautement controversé du gouvernement conservateur. À la recherche d'un nouvel élan pour conjurer la défaite annoncée par les sondages lors des élections attendues l'année prochaine, le Premier ministre Rishi Sunak joue gros avec ce jugement. La crise politique à Madagascar a pris une tournure grave survenant à seulement 48 heures du premier tour de l'élection présidentielle. Un collectif de 10 candidats de l'opposition exhorte les Malgaches à boycotter les urnes. Rosine Munezer.
Nous refusons l'élection de jeudi et nous appelons tous les Malgaches à considérer que cette élection n'existe pas, a déclaré au nom du collectif le candidat Radio Andrianana Rivel devant la presse à Antananarivo, la capitale. Depuis début octobre, les manifestations et marches pacifiques à l'appel du collectif se sont multipliées. Régulièrement dispersées au gaz lacrymogène, les manifestants ont répliqué samedi avec des engins artisanaux. 13 candidats sont en lice, dont le président sortant André Rajoelina. Le collectif qui dénonce un coup d'État institutionnel demande une suspension du processus électoral et l'intervention de la communauté internationale. Les États-Unis et l'Union européenne ont exprimé leurs préoccupations et dénoncé un usage disproportionné de la force contre l'opposition. Le scrutin, initialement prévu le 9 novembre, a été reporté d'une semaine à la suite de la blessure d'un candidat lors d'une manifestation.
Le Bénin et ses voisins du littoral ouest africain, le Togo et le Ghana, tout comme les îles du Pacifique et les villes côtières d'Asie du Sud, sont menacés par la montée des eaux. Le Bénin perd chaque année 30 mètres de sa côte, selon l'océanographe Kossi George Degbe. Il s'agit d'un phénomène régional qui s'observe tout le long des côtes ouest africaines. L'érosion côtière sera l'un des sujets abordés lors de la COP28 à Dubaï en décembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a affirmé que les États-Unis ne cherchaient pas à prendre leur distance avec la Chine, mais souhaitent au contraire améliorer leurs relations avant un sommet très attendu aujourd'hui avec son homologue Xi Jinping à San Francisco. Jacques Aristide.
Les deux dirigeants doivent se rencontrer en marge du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, APEC, en Californie, un an après leur dernier face-à-face sur fond de tensions commerciales et politiques autour de Taïwan notamment. Nous n'essayons pas de nous découpler de la Chine. Ce que nous essayons de faire, c'est d'améliorer nos relations, a déclaré hier le président américain, ajoutant qu'il espérait que leur sommet aiderait les deux parties à rétablir une communication normale, être capable de prendre le téléphone et de se parler s'il y a une crise. Mais Joe Biden a prévenu que les États-Unis se méfiaient des investissements en Chine en raison des pratiques commerciales de Pékin. Je ne vais pas continuer à soutenir les positions selon lesquelles, si nous voulons investir en Chine, nous devons livrer tous nos secrets commerciaux, a-t-il dit. Le ministère chinois des Affaires étrangères a promis un dialogue approfondi sur les questions essentielles concernant la paix et le développement dans le monde. La Chine a également fait savoir qu'elle ne bougerait pas sur certaines questions telles que Taïwan, considérée par Pékin comme partie intégrante de son territoire, et son expansion militaire en mer de Chine méridionale. Pendant son voyage, Xi Jinping dînera avec des chefs d'entreprise américains et devrait plaider pour un assouplissement des restrictions commerciales imposées par Washington lors de sa rencontre avec Joe Biden.
Jacques Aristide, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, déclare que les hôpitaux et les patients devaient être protégés. Il était interrogé sur l'opération israélienne dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza lancée dans la nuit de mardi à mercredi. Cette armée mène donc une opération ciblée contre le Hamas dans l'hôpital Al-Shifa, le plus important de la bande de Gaza, où s'entassent des milliers de personnes, mais qui reste considéré comme un site militaire stratégique par Israël et les États-Unis. Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont entretenus hier soir de la situation sur place avant qu'Israël n'annonce cette opération. Les deux dirigeants ont discuté longuement des efforts en cours pour faire advenir la libération des otages retenus par le Hamas, a déjà fait savoir la Maison-Blanche dans un communiqué. Les livraisons par les États-Unis d'aide alimentaire à l'Éthiopie vont reprendre dans l'ensemble du pays, a annoncé mardi l'agence américaine de développement USAID, après la conclusion d'un accord de surveillance de la distribution de l'aide.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Alexandrine Rolognon.
La Banque centrale du Nigeria a déclaré que les anciens billets de banque qui devaient être retirés de la circulation le mois prochain continueraient à avoir cours légal, mettant fin à des mois d'incertitude après qu'une tentative de les retirer au début de l'année a provoqué de graves pénuries de liquidités. En mars, la Cour suprême a ordonné à la Central Bank of Nigeria de prolonger jusqu'au 31 décembre l'utilisation des anciens billets de 1 500 et 200 naira. Le gouvernement ghanéen et le syndicat de la fonction publique se sont mis d'accord pour augmenter le salaire de base de la fonction publique de 23% de janvier à juin 2024, puis de 25% de juillet à décembre 2024, selon une déclaration des deux parties. L'avionneur américain Boeing a annoncé une nouvelle commande venant de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines au deuxième jour du salon aéronautique de Dubaï, après un méga contrat conclu la veille avec Emirates. La compagnie africaine a commandé 20 exemplaires du Boeing 737-8 et 11 du Boeing 787-9 et pris une option pour 36 avions supplémentaires. Les deux parties ont également signé un accord pour le réaménagement des cabines de la flotte existante de Boeing 787 de la compagnie.
Et sans transition, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour la page des sports. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le Burkina Faso en quête de redressement au mondial des moins de 17 ans en Indonésie, tandis que le Sénégal confirme sa qualification.
Oui, après leur défaite d'entrée contre les Français 3-0, les étalons cadets jouent leur deuxième match de groupe aujourd'hui face aux États-Unis dans la poule E. Le Burkina Faso a besoin d'une victoire pour conserver ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. En revanche, mission des huitièmes accomplie pour le Sénégal. Hier, les Lionceaux de la Teranga se sont qualifiés grâce à leur écrasante victoire 4-1 contre la Pologne en match comptant pour la deuxième journée de la poule D de cette compétition qui se joue en Indonésie. Idrissa Gueye a signé un triplé pour les Lionceaux avec deux victoires. Le Sénégal est assuré de disputer les huitièmes de finale. Les protégés de l'entraîneur Serigne Saliou Dia vont disputer leur troisième match face au Japon vendredi.
Début ce mercredi des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique.
Quatre matchs au programme aujourd'hui pour le compte de la première journée. La Guinée équatoriale reçoit la Namibie dans le groupe H. À suivre aussi Rwanda-Zimbabwe dans la poule C. Choc en vue entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie, qui s'étaient déjà rencontrés en éliminatoire de la prochaine CAN. L'Éthiopie affronte la Sierra Leone. A noter que les rencontres de la première et la deuxième journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026 s'étalent de ce mercredi 15 au mardi 21 novembre.
Emma Hayes va prendre la tête de la sélection féminine américaine, objectif pour les Jeux Olympiques de 2024.
La Britannique de 47 ans a été nommée en tant que sélectionneuse de l'équipe féminine de football des États-Unis, a annoncé Team USA. Emma Hayes va d'abord terminer la saison 2023-2024 avec Chelsea FC, club qu'elle dirige depuis 2012 et avec lequel Elle a atteint la finale de la Ligue des Champions en 2021. Elle rejoindra ensuite Team USA 2 mois avant les Jeux Olympiques de Paris de juillet 2024, précise la fédération. L'équipe reste donc dirigée dans l'intervalle par Tiula Kilgoi. Les Américaines sacrées, championnes du monde en 2015 et 2019, ont raté leur Coupe du Monde 2023 avec une élimination dès les huitièmes de finale face à la Suède en août.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Mandakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, la récente grève lancée du 2 au 8 novembre dernier par le syndicat des enseignants visant à réclamer le rétablissement de salaire des enseignants suspendus après le recensement physique des fonctionnaires engendre des dissensions au sein même du syndicat. Bien que les responsables du CET aient suspendu la grève, la base décide de la maintenir jusqu'à ce que l'ensemble de leurs revendications soit complètement satisfait. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Iront ou n'iront pas à l'école? Cette interrogation taraude l'esprit des parents qui doivent déposer leurs enfants à l'école, surtout ceux de la maternelle, avant d'aller au travail. Les élèves des lycées et collèges ballottés entre l'appel à la reprise des cours par les responsables du syndicat des anciens du Tchad et le comité de crise appelant à la grève sèche et illimitée imposent leur loi. Ils sillonnent les quartiers cailloux en main pour empêcher leurs camarades des établissements privés de faire cours. Le comité de crise convoque une assemblée générale pour destituer les membres du bureau national de leur syndicat qu'ils qualifient de corrompu, mais elle a été empêchée par la police.
Nous ne regagnons pas les salles de classe tant que le comité de crise ne lève pas la grève.
Nous sommes découragés par le comportement de nos leaders. Vu leur défaillance, nous allons continuer à rester à la maison et les généraux qui ont organisé ce recensement macabre puissent venir en salle enseigner les élèves.
Nous, on a décidé pas de gagner les salles de classe, point.
Blaise Ndartoïde, secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, dont la légitimité est contestée par la base, informe à VOA Afrique que la grève de 7 jours renouvelables initiée par son organisation est une réponse à la suspension de salaire de plus de 7000 fonctionnaires de l'État, dont 2000 enseignants. Il donne les raisons qui ont conduit son organisation à lever ce mot d'ordre de grève pour donner une chance à la négociation qu'il a entamée avec le gouvernement sur le statut particulier des enseignants.
Les premiers qui se sont manifestés à être recensés ont commencé par gagner leur salaire au fur et à mesure parmi ceux qui étaient victimes de la coupe. Pendant que nous étions en négociation, la solde a en même temps viré les omis des titres de transport de 2016 à 2020. Les omis des inactifs, ils ont aussi versé leur titre de transport. C'est une raison assez suffisante pour demander la suspension parce que ce qui nous intéresse, c'est le décret 477.
Il n'est pas question de suspendre la grève, estime le président du comité de crise, Dimoudal Faustin, qui appelle à une grève sèche et illimitée dans le secteur éducatif sur toute l'étendue du territoire national et dénonce les menaces qui pèsent déjà sur les membres du comité.
Nous tenons pour responsable le gouvernement pour tout ce qui adviendra aux membres du comité de crise et à tout enseignant observant cette grève. Cependant, la grève se poursuit jusqu'à la satisfaction totale.
L'un des points de revendication du comité de crise que le secrétaire général du CET, Blaise Ngartoïde, trouve un peu exagéré, c'est le remboursement des salaires coupés dans le cadre de 16 mesures qui ne sera pas seulement une lutte des enseignants seuls.
Les 16 mesures que nous devons réclamer doivent impliquer le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Fonction publique. Satisfaction totale, c'est d'obtenir le paiement des 16 mesures. Les conséquences vont être ingérables.
Une grève qui paralyse le système éducatif tchadien depuis plus d'une semaine, mais aucune réaction du gouvernement de transition pour l'instant. André Kodumadjingar, jamais. Non, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En RDC, les 26 candidats à la présidence refusent de signer le code de bonne conduite proposé par la Commission électorale nationale indépendante à moins d'une semaine du lancement de la campagne électorale. Les candidats exigent à la CENI de la transparence, notamment en ce qui concerne les listes des électeurs et la cartographie des bureaux de vote. Pour en parler, Eddy Issango a joint à Kinshasa le président de la Ligue des élections libres et transparentes, Jérôme Monceau.
Nous pensons que la rencontre entre la Commission électorale indépendante CENI avec les 26 candidats à l'élection présidentielle, c'était un moment de décrispation, un moment de reconstruction de la confiance entre les acteurs, les parties prenantes pour ces élections, donc les candidats et le pouvoir organisateur des élections qui est la CENI. Mais quant au déroulement du débat, et le débat était à la hauteur, parce que les candidats étaient porteurs, les candidats présidents de la République étaient porteurs de certains facteurs, de certaines données que la CENI devait tenir compte aussi de ces données-là. Si ces données électorales étaient créées, et c'était la CENI, de voir dans quelle mesure ils devaient introduire des facteurs correctifs afin d'améliorer le processus électoral.
Et que va-t-il se faire maintenant devant ces blocages? Parce que les candidats, aucun n'a accepté de signer les codes de bonne conduite. On est à moins d'une semaine du début de la campagne électorale.
Et nous pensons que c'est en quelque sorte un certain blocage qui va contribuer à la crispation même du procès électoral, la crispation même dans le chef de parti prenante, surtout dans le chef des candidats à président de la République. Et c'est d'Arsénie maintenant de jouer sur une autre paire de manches, de sorte qu'on puisse se mettre d'accord pour dégager un minimum de consensus pour qu'on puisse arriver les uns et les autres parviennent à signer le code de bonne conduite. Parce que sans ce code de bonne conduite, nous pensons que le processus risquerait d'être biaisé du point de vue même comportement des acteurs et du point de vue du comportement même des électeurs. Et c'est pourquoi nous pensons qu'avec le peu de temps qui nous reste, la CENI doit activer le mécanisme, voir comment il peut apporter des rectificatifs
justement,
dans le système de données au regard des informations qu'on lui a données.
Justement, au regard du temps que reste, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés, notamment la publication des listes des électeurs, la cartographie électorale et beaucoup d'autres points. Pensez-vous que la CENI peut résoudre ces problèmes sans qu'il n'y ait de répercussions sur la date des élections?
Et nous pensons que tous doivent courir derrière la montre. Parce que le délai de la tenue des élections, le 20 décembre 2023, c'est un délai vraiment fiché. On ne peut pas même rectifier pour dire qu'il y a un certain glissement du délai sur le calendrier électoral comme prévu. Je crois que le reste de temps, nous pensons et nous demandons même à la CENI aux uns et aux autres d'harmoniser leur point de vue de sorte que nous puissions aller engager ce processus.
Et quels sont ces grands points qui doivent être résolus? Quels sont ces grands points qui doivent être résolus dans si peu de temps?
On a demandé à la CENI qu'il puisse tout à fait s'assister, mettre à jour ou bien publier la cartographie des bureaux de vote, des sites et des centres de vote. Mettre tout à fait s'assister, c'est de respecter les dispositions légales qui sont contenues dans la loi électorale pour la publication et l'affichage des listes électorales. Et si on va harmoniser cette site où il y avait une certaine discordance, où il n'y avait pas une harmonie entre les données publiées dans la cartographie et les données qui sont sur la liste que la CENI a présentée, et qu'on parvenait à réduire ces égards-là, je crois qu'on pourrait aller aux élections sans qu'il y ait de problème là-dessus.
Jérôme Monceau, président de la Ligue des élections libres et transparentes en RDC. Les survivants du génocide des Tutsis au Rwanda se réjouissent de la comparution de Sostène Munyemana, accusé de génocide de 1994. Toutefois, il presse pour une accélération des procès afin que tous les suspects soient rapidement jugés. De Kigali, le récit de Jean Damascène Manishine.
Devant la cour d'assises de Paris, Sostène Mounyemana, gynécologue à l'hôpital universitaire de Outaré, est poursuivi pour le massacre des Tutsis dans cette ville, située à 130 km au sud de Kigali. Pour les rescapés du génocide, voir Mounyemana faire face à la justice est un geste encourageant.
C'est un grand soulagement. Si tous les suspects pouvaient être jugés ici, même devant nous, ça nous aiderait beaucoup.
S'il commence à être jugé, ça va un peu soulager les principes de certains et les scapés seront ravis de voir que justice est rendue.
Ce sentiment de satisfaction est partagé par le collectif des partis civils pour le Rwanda CPCR, l'une des organisations qui ont porté plainte contre son médecin rwandais. Alain Gauthier est président de ce collectif.
Ah ben pour nous, c'est une grande satisfaction. Nous avons attendu tellement longtemps que le rôle de Sostène Mounyemana soit reconnu devant la justice française. Alors pas spécialement pour nous, collectif des partis civils pour le Rwanda, mais nous pensons surtout aux survivants, aux rescapés, à tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille sur la colline de Tumba. C'est pour eux surtout que nous nous battons.
Pour Maître Richard Gisagara, l'un des avocats qui suivent de près les procès pour génocide à Paris, il est probable que certains suspects échappent à la justice au regard du nombre élevé des suspects et de leur âge avancé.
Il y a dans les tuyaux de la justice une trentaine de dossiers qui sont pendants devant la justice. Certaines personnes sont mises en examen, d'autres les enquêtes sont en cours, d'autres les dossiers sont terminés. Au rythme actuel, je pense qu'il y aura beaucoup, malheureusement, beaucoup de personnes qui vont échapper à la justice parce qu'à ce rythme-là, on ne va pas pouvoir juger tout le monde.
Sostène Mounyemana, 68 ans, est poursuivi pour participation à une entente en vue de la préparation du génocide. Pour génocide, crimes contre l'humanité, complicité de génocide et de crimes contre l'humanité, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Jean Damasceni Manichini, pour VOA Afrique, Kigali.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping se rencontrent ce mercredi à marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Les responsables américains ne s'attendent pas à des avancées majeures dans les relations entre les États-Unis et la Chine, comme le rapportait Bill Gallo de la VOA depuis Séoul. Récit Arzuma Compaoré.
Selon des responsables américains, l'un des principaux objectifs du sommet est simplement de faire en sorte que les deux parties continuent de se parler. Les États-Unis veulent s'assurer que les tensions ne dégénèrent pas en conflit. Ici, un avion de chasse chinois s'approche d'un avion américain en mer de Chine orientale en juillet et tire des fusées éclairantes. Le Pentagone a fait état de près de 200 incidents de ce type au cours des deux dernières années. En janvier, ce ballon de surveillance chinois a survolé le continent américain. Un avion de chasse américain a finalement abattu le ballon au large de la Caroline du Sud, mais pas avant que les relations entre les États-Unis et la Chine ne se soient détériorées. Aujourd'hui, les relations semblent se stabiliser. Xi Jinping a reçu de nombreuses délégations américaines et a tenu des propos plus optimistes sur les relations.
J'ai dit à de nombreuses reprises, y compris à plusieurs présidents, que nous avions mille raisons d'améliorer les relations entre la Chine et les États-Unis, mais pas une seule raison de les gâcher.
La pression intérieure explique en partie la diplomatie plus souple de Xi. La croissance économique de la Chine après la crise du Covid a été beaucoup plus lente que prévu. Selon l'analyste Amanda Xiao, Xi a probablement été pris au dépourvu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Nous avons vu l'opposition entre les démocraties et les pays autoritaires. Et cela a placé la Chine du côté des pays autoritaires. Cela a donc créé un effet de ralliement pour Washington et ses alliés et partenaires qui ont formé une sorte de coalition anti-Chine.
Mais les choses pourraient se corser à partir de là. Le prochain scrutin à Taïwan pourrait entraîner la réélection d'un gouvernement très méfiant à l'égard de Pékin. Alors que la campagne électorale présidentielle américaine s'intensifie, de nombreux analystes estiment qu'il s'agit peut-être d'un moment rare pour les États-Unis et la Chine d'améliorer leurs relations.
Le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Maniakiza à la mise en onde et Lionel Bonamila Galima. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.